Canal Académie. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
L'architecture serait-elle un sport de combat comme un autre ? Dominique Perrault détient assurément au moins deux qualités d'athlète, le sens de la compétition et du dépassement. À seulement 36 ans, il participe à un concours international qui marquera un tournant dans sa carrière d'architecte. C'est à lui que reviendra la tâche vertigineuse de concevoir la bibliothèque François Mitterrand à Paris. Un coup gagnant qui l'a mené loin, très loin. Il a depuis multiplié les projets et parmi eux, un certain nombre ont trait au sport. Il est derrière le vélodrome et la piscine olympique de Berlin ou encore le centre olympique de tennis à Madrid. L'année 2024 sera sans doute son année la plus sportive. Il a dessiné avec Gaël Loriot-Prévost la nouvelle toiture du cours Suzanne Lenglen à Roland-Garros. Mais aujourd'hui, l'architecte membre de l'Académie des Beaux-Arts vient nous parler d'une autre réalisation, le village olympique et paralympique de Paris, inauguré le 29 février dernier. Il accueille en ce moment même près de 15 000 athlètes, et ce, jusqu'au 8 septembre prochain. Après ça, le village entamera une deuxième vie. Dominique Perrault, bonjour.
Bonjour.
Un grand merci d'être à notre micro pour nous présenter ce village des athlètes dont vous êtes l'urbaniste en chef. Un projet assez démesuré par sa taille, il s'étale sur trois communes différentes, Saint-Denis, Saint-Ouen et Lille-Saint-Denis. Sa construction a débuté en 2020, alors je vous propose de remonter encore quelques années en arrière, puisque la réflexion autour de ce chantier pharaonique a débuté pour vous bien en amont, autour de 2018, je crois bien. Expliquez-nous comment on devient le concepteur du village olympique.
Effectivement, cela commence par la candidature de la ville de Paris. Paris a été malheureuse quelques années avant, au travers de sa candidature, elle voulait accueillir les Jeux, déjà, dans Paris. Et puis, Anne Hidalgo a rebondi, si je puis dire, en proposant que la Seine soit le fil conducteur de cette candidature et que l'histoire, et donc le Paris historique, le Paris qui est connu dans le monde entier, qui est cher au cœur de toute la planète en fait, que ce Paris soit vraiment le lieu d'accueil des Jeux Olympiques. Et ça, c'est une idée qui est une très belle idée, c'est une idée qui n'est pas facile, on le voit aujourd'hui, parce qu'il faut que tout ceci se mette en place. Mais ça reste une très belle idée. Et donc, en 2018, à peu près, effectivement, Paris a fait candidature, Paris a été retenu, avec une petite particularité, puisque Los Angeles aussi a été retenu. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de tandem, si je puis dire, Paris en 2024, Los Angeles en 2028. Donc c'est assez inédit, mais ce qui donne, d'une certaine façon, une perspective. Les villes s'essoufflent, en fait, ça coûte très cher, ça prend beaucoup de temps de monter une candidature olympique. Et là, le fait que deux candidatures soient aient pu voir le jour en même temps, ça donne en fait une certaine perspective à la famille olympique et à l'organisation des Jeux olympiques. Donc, le Paris historique, la Seine, ça c'est la racine. Par contre, cette racine, elle se développe, car Paris, c'est 2 millions d'habitants, peut-être un petit peu plus. Et surtout, il y a 10 millions d'habitants autour de Paris.
Donc, le Grand Paris.
Oui, c'est pas mal. Et donc, en fait, ces Jeux olympiques, c'est aussi une façon de parler encore et toujours de ce que sera ou ce que pourra être le Grand Paris.
Alors, votre projet a été sélectionné parmi un tas d'autres candidatures. Qu'est-ce qui faisait la singularité de votre projet, de votre réflexion pour ce village ?
Bon, d'abord, c'est l'équipe, parce qu'on a monté une équipe assez vaste, avec des talents variés, aussi bien des talents évidemment de paysagiste, mais également d'architecte, car en fait, il faut préfigurer le village dans sa version olympique, c'est-à-dire pour accueillir les 15 000 athlètes, et ensuite il faut que la préfiguration soit réversible pour que les bâtiments qui vont être construits par une quarantaine de bureaux d'architecture, plus là aussi 5 ou 7 paysagistes qui vont aussi poursuivre le travail, que l'ensemble soit réversible. Donc, ça demande des qualités techniques aussi, de bureau d'études, évidemment, et également des qualités environnementales, avec des approches un petit peu tous azimuts, pas seulement des approches sur les économies d'énergie, mais aussi sur le confort, sur le vivre ensemble. Je pense que la qualité, enfin disons la diversité, et d'une certaine façon, les champs de connaissances couverts par l'équipe a été un élément important. L'autre élément, c'est la vision. C'est la vision de ce village qui est une vision qui n'est pas une vision manifeste ou une vision déclarative comme ont pu l'être certains villages. Certaines époques s'y prêtaient. Aujourd'hui, c'est plus délicat. Surtout que la déclaration, c'est en fait... Un pari risqué de transformer une friche industrielle très polluée dans des communes qui sont pauvres, qui sont certainement les plus pauvres de France aujourd'hui, et donc de transformer cette friche industrielle en un nouveau quartier. Et donc il y a là des stratégies qui sont fortes et modestes, c'est-à-dire elles sont fortes parce qu'elles vont restructurer complètement cette friche industrielle, elles vont aussi permettre que tout le dessin urbain s'oriente, au dessin au sens de la composition, s'oriente pour lier, relier ce qui existe autour, mais aussi vers les transports en commun, puisqu'il y aura la gare Pleyel qui va être inaugurée fin juin. Et donc cette gare Pleyel, c'est l'équivalent de Châtelet-Léal. C'est-à-dire qu'on sent bien que se déplacent petit à petit des grands hubs de transport public dans le Grand Paris, en écho de ce qui existe dans Paris lui-même. Donc c'est ce dispositif de quartier, disons, qui est imaginé, et pas de village, qui a certainement intéressé et qui intéresse toujours l'ensemble des commanditaires, parce que les commanditaires sont nombreux. Il y a l'État, il y a la ville, il y a la région.
Enfin,
je veux dire que la table...
On peut faire une cartographie.
Oui, la table est large.
Alors, vous l'avez dit, ce village olympique a été conçu pour être surtout un éco-quartier. J'en reviens un instant sur le village des athlètes qui accueille donc 15 000 athlètes en ce moment. Comment vous avez fait pour respecter ces délais très contraints ? Le chantier a débuté en 2020. Vous avez livré le village le 29 février 2024. C'est un temps record. Comment vous avez fait ? J'imagine qu'il y a eu aussi des imprévus de dernière minute. Comment vous les avez gérés ? Comment ça se passe ?
Alors nous, on a géré notre mission, qui est une mission d'urbanisme. Donc en fait, c'est la mission amont. Et nous avons donc travaillé deux ans, de façon un peu plus de deux ans, de façon très, très intense, évidemment, pour non seulement dessiner, au sens de la carte, ce nouveau village, mais aussi pour accompagner tous les architectes qui allaient déposer leur permis de construire pour construire chacun un bâtiment de ce nouveau quartier.
Vous étiez l'architecte en chef ? C'est comme ça qu'on peut définir votre rôle ?
Non, je suis l'urbaniste en chef.
L'urbaniste en chef.
Moi, je n'ai pas construit dans le village. Voilà. Donc, moi, j'ai animé, en fait, d'une certaine façon, un atelier d'architecture, parce que les architectes, comme le temps était très contraint, donc tout ceci se dessinait en parallèle, en même temps qu'on dessinait le quartier, eux dessinaient leurs bâtiments. Donc il y avait une espèce de troupe, si on peut dire, qui était au travail pour déposer les permis de construire, qui sont évidemment les autorisations qui permettent de lancer les chantiers à la suite. Et donc, notre partie a été ce moment amont, qui est le moment où nous avons hérité de plateformes industrielles, c'est-à-dire d'un sol qui n'existait pas. Nous avons cassé ces plateformes, nous avons retrouvé le sol naturel, ce qui est un geste évidemment environnemental très fort. Oui. Donc, la pente... Car en fait, on ne voyait pas la Seine, tout était plat ou complètement imbriqué dans des surfaces de production industrielle. Et donc, on a retrouvé le sol naturel, la pente naturelle, ça c'est assez beau, parce que toutes les rues descendent vers la Seine, en pente douce, car c'est un quartier à mobilité universelle. Oui. Donc, il n'y a pas de pente supérieure à 4%, non seulement pour l'avenir du quartier, mais aussi pour accueillir les Paralympiques qui vont venir à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre.
Alors, vous avez parlé déjà de la Seine, mais je voulais y revenir un petit peu plus en détail. Vous en avez fait un point central du projet. Comment vous l'avez exploité ? Vous avez construit ce qu'on appelle des îlots bateaux. Comment on pourrait les définir ?
Il y a un livre qui fait 800 pages. Bon, c'est pas pour essayer de faire des livres avec beaucoup de pages, pour montrer qu'il y a beaucoup de dessins et beaucoup.
Oui, il est très visuel.
Voilà, c'est très visuel. Et je parle de ce livre parce que, en fait, il y a beaucoup de choses. Il y a des ambitions qui ont été énoncées. Beaucoup ont été, d'entre elles, une douzaine d'ambitions. Beaucoup ont été plutôt atteintes, d'autres moins, suivent pour différentes raisons, des questions de temps, des questions d'argent, des questions d'autorisation aussi, des questions de normes. Construire avec du bois, c'est une idée très très heureuse, si ce n'est qu'encore faut-il qu'il y ait une filière bois, encore faut-il que les entreprises soient mobilisées. Aujourd'hui, ça serait plus facile. Oui. Au moment du village, c'était un petit peu le début de cet élan. Donc tout ça pour dire que la question des bateaux, c'est une question qui est récurrente. On a cherché à faire bouger la Seine qui appartient à l'État et qui gère la Seine, ce fleuve, comme un outil industriel. Et donc, pour introduire d'autres usages sur la Seine, c'est un peu, pas mission impossible, mais c'est mission difficile. Voilà. Donc l'idée des bateaux, c'est une idée qui va se développer d'ailleurs. Bon, parce que le projet d'Anne Hidalgo qui s'est mis en place avec la baignade, c'est aussi une autre façon de domestiquer la Seine, que la Seine soit rendue aux habitants, aux riverains, c'est le cas de le dire, du fleuve. Donc voilà, donc ce sont ces approches. Certaines ont été, comme je le disais, vraiment abouties. D'autres sont plutôt énoncées, mais elles sont là. Et c'est pour ça que ce livre cherche à marquer, en fait, ce qui a été, mais ce qui aussi sera.
Alors, ce qui sera, justement, en 2025, ce village se transformera en éco-quartier. Vous ne vouliez surtout pas faire ce qu'on appelle, dans le jargon, un éléphant blanc, c'est-à-dire des infrastructures qui deviendraient, par la suite, à la fin des JO, complètement caduques et inutiles. Là, c'est vraiment tout l'inverse de la démarche. C'est un chantier qui s'inscrit dans un projet de très long terme. Quelques mots sur à quoi ressemblera ce nouveau quartier en 2025? On y trouvera quoi? Des logements, des bureaux, des hôtels?
Alors effectivement, le concept, c'est de dessiner un quartier. Et que ce quartier soit mis à disposition de la famille olympique comme si le quartier était un immense Airbnb, quoi. Voilà. Et donc la famille olympique s'en empare, s'installe, les Jeux ont lieu, et ensuite le quartier, si je puis dire, dans son ensemble, parce qu'il y a aussi des espaces publics, il y a évidemment l'aménagement des différents bâtiments, est réversible. Et donc, toutes les plateformes, il y a quand même 10 hectares de plateformes pour Paris 2024, pour installer des tentes, pour accueillir les athlètes, etc. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Extraordinaire aussi dans sa dimension temporaire et événementielle, finalement. Et le sujet, c'est comment, grâce à cet événement, mettre en route une nouvelle disponibilité de ce quartier. C'est-à-dire, en 25, effectivement, les appartements vont tous être changés afin d'accueillir des familles, afin d'accueillir... Il y a 30% de logements sociaux également, dans les 2400 logements qui vont être proposés. Il y a des bureaux, il y a des hôtels, il y a des services, il y a des commerces, il y a des écoles, enfin, il y a ce qui constitue un quartier. Voilà. Et ce qui est important et intéressant, c'est que ce quartier ne soit pas replié sur lui-même. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un accompagnement, d'une certaine façon, d'un point de vue politique, d'un point de vue social, d'un point de vue urbanistique, pour que ce quartier, finalement, se connecte avec son environnement, avec les quartiers environnants. Et je voudrais dire quelque chose qui est un peu militant, qui est en fait l'idée qu'au cœur de ce quartier, qui est un quartier qui sera très confortable, très agréable, c'est pas le sujet. Mais ce quartier, si on en prend le périmètre administratif, disons, de cette zone d'aménagement concertée, puisque c'est quand même une procédure très particulière en matière d'urbanisme, eh bien, on aurait pu le construire à Strasbourg, on aurait pu le construire à Marseille, à Lille ou bien à Nantes. Ce qui fait la spécificité de ce quartier, c'est ce qui n'est pas dans le quartier. Et ça, c'est un sujet. C'est-à-dire que la Cité du cinéma, qui représente à peu près 8 hectares, 8-9 hectares, qui se trouve au cœur du quartier olympique. Le quartier olympique fait une cinquantaine d'hectares, donc ça représente quand même une surface importante. Cette Cité du cinéma n'est pas pensée comme étant le cœur du futur quartier. Et cela est assez problématique et même choquant. D'ailleurs, l'événement olympique, lui, s'empare de la Cité du cinéma, puisque au centre de la Cité du cinéma, il y a une formidable galerie industrielle, magnifique, qui fait le double de la galerie de la Tête Moderne à Londres, donc ça donne quand même une dimension. Ouais. Eh bien, cette galerie, ça sera le restaurant des athlètes. 3500 repas, je ne sais pas, toutes les heures, enfin 24 heures sur 24 ou plus. Enfin, donc ça montre bien qu'au cœur du quartier, il y a en fait ce qui constituerait l'identité de ce quartier, qui est à Saint-Denis-Saint-Ouen, qui s'ouvre sur la Seine, qui n'est pas nulle part ailleurs.
Et au début de votre réponse, vous parliez aussi de bâtiments réversibles. Alors peut-être on peut expliquer ce que c'est. Ce sont des bâtiments dont la fonction pourrait être amenée à changer, c'est-à-dire, je ne sais pas, un hôtel qui pourrait se transformer par la suite en logement. On peut qualifier ce quartier-là de réversible ?
Oui, il y a une réversibilité qui est totale, qui est celle du passage de l'accueil Jeux Olympiques à la mise en place du quartier. Bon, ça c'est une réversibilité qui est forte, qui a été étudiée, qui peut se jouer à quelques cloisons dans un appartement, parce qu'un athlète n'a pas de cuisine. Par exemple,
donc, oui,
mais par contre, il y a plus de chambres, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être plus aussi d'escaliers provisoires. Enfin, bon, il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui permettent de gérer ce type d'usage. Dans le futur, ça veut dire aussi que l'on pourrait transformer certainement des bureaux en logements. Il y a d'ailleurs des réflexions qui sont menées pour accueillir des résidences étudiants aujourd'hui, alors que ça n'était pas du tout dans le scope,
dans le
si je puis
plan,
dire,
oui.
du départ. Donc on voit bien que la structure, qui est une structure avec des rues, avec des allées, avec tout ce dispositif un petit peu en faisceau qui va jusqu'au bord de l'eau, ce dispositif est en fait très, très pondérable, si je puis dire. On peut développer plus certaines parties, utiliser les espaces publics avec une certaine intensité, alors que d'autres peuvent être plus calmes, etc. Au travers de ceux qui vont y habiter et y travailler, il y a effectivement des évolutions qui seront possibles, moins abruptes que par rapport à un quartier qui est figé, déterminé, et sur lequel il est évidemment fort difficile de le faire évoluer sans casser.
Et casser, c'est très consommateur.
Alors casser, évidemment, c'est complètement énergivore, mais c'est quand même, d'un point de vue psychologique, c'est un désastre.
Aussi. C'est votre consoeur Anne Démian, qui est architecte et également membre de l'Académie des Beaux-Arts, qui a publié l'année dernière un manifeste pour une plus grande réversibilité des bâtiments. On l'avait reçu ici. Selon vous, les projets de demain en architecture devront systématiquement prendre en compte cette réversibilité? J'entends par projet de demain les logements, les hôtels, ce genre de bâtiments.
Absolument. Alors, ne me posez pas la question de quand, parce que si les architectes sont disposés et même ont des idées. Parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de situation assez désagréable où la dimension écologique, environnementale, etc., s'opère au travers de chiffres, de normes et de tableaux Excel. Donc ça, c'est quelque chose qui est certainement nécessaire. D'ailleurs, quand on va dans nos supermarchés, on regarde si on est A, B, C, on achète une voiture A, B, C, D, etc. Bon, donc ça, c'est OK. C'est une information quantitative. Mais la vertu, si je puis dire, la qualité des architectes, c'est en fait, c'est la création. Et la création, ça veut dire que les architectes sont capables d'adaptation des lieux de vie, d'adaptation de la ville, d'adaptation des lieux de travail. Donc, qui dit adaptation, dit transformation, qui dit transformation, dit réversibilité. Donc, en fait, les architectes ont l'intelligence naturelle de la réversibilité. Ce qui nous pose problème, c'est que, en fait, nous n'avons pas les clients. Nous n'avons pas les clients. Les développeurs, les promoteurs ne sont pas intéressés par la réversibilité puisqu'eux, ils vendent un produit. Donc le produit doit être défini, ils le vendent, au revoir et merci. Donc il faut que les politiques se mobilisent sur la question de la réversibilité. Et pour que les politiques se mobilisent, il faut qu'on ait un public qui s'appelle les populations. Il faut que les gens sortent dans la rue ou affichent sur leur bâtiment « Soyons réversibles, soyons réversibles, nous voulons une ville réversible ». Et à ce moment-là, effectivement, les architectes pourront faire œuvre d'imagination et de création en mettant en œuvre, justement, et en place leur vision et leur talent de réversibilité. Voilà. Donc, en fait, la réversibilité est là, à bout touchant, presque, pratiquement, mais il faut que la population l'affiche, le veuille, et les politiques, évidemment, s'en empareront, et à ce moment-là, ceux qui seront les donneurs d'ordre, qui sont quand même les grands argentiers, les investisseurs, etc., évidemment, emboîteront le pas, puisque ce sera un nouveau marché.
C'est tout un schéma de pensée à repenser et aussi une éducation à faire autour de l'architecture pour les populations.
Enfin, nous entrons dans une ère de restriction, donc il faudra bien s'adapter.
Alors, réfléchir à une architecture bas carbone, c'est un premier axe de réflexion majeur qui questionne beaucoup d'architectes. Il y a une autre problématique très importante qui se pose. Alors, on sait que les villes ne pourront pas s'étendre à l'horizontale à l'infini. Comment continuer à construire? Alors, on peut construire des tours en hauteur, par exemple. Vous explorez une autre alternative, Dominique Perrault. C'est le groundscape. Expliquez-nous ce que c'est.
Le groundscape. Le groundscape, c'est un peu l'opposé du landscape. C'est-à-dire que c'est le paysage du dessous, le groundscape. En fait, il s'agit pas d'aller vivre sous terre ou de creuser des puits infinis pour vivre à l'envers, si je puis dire. Non, il s'agit plutôt de considérer le dessous comme un lieu de ressources. C'est-à-dire sur une épaisseur de 7 mètres, de 10 mètres, d'une vingtaine de mètres, enfin, ce qu'on pourrait appeler quelque chose un peu de sous-cutané. Et donc, il y a là des ressources d'espace. Il ne s'agit pas forcément de construire, puisque sous notre ville, sous nos villes, il y a des kilomètres carrés d'espace qui sont plus ou moins en fonctionnement. Entre autres, un exemple que tout le monde comprendra, les parkings. Il y a des milliards de mètres carrés sur la planète de parkings qui sont de plus en plus désaffectés. Eh bien, ces lieux sont des lieux qui nous permettraient d'étendre, en fait, nos activités, que ça soit le logement, puisqu'on pourrait trouver des espaces d'atelier, des espaces complémentaires de travail ou de stockage pour nos logements. Donc, ça fait quand même quelques pièces en termes de surface complémentaires. Mais ce sont des lieux aussi qui permettent d'amplifier d'une certaine façon les ressources et la résilience de la ville, puisque ça augmente la ville sur elle-même sans création de nouvelles structures. Donc il y a là une espèce d'intensification de la structure urbaine. Et évidemment, ça permet aussi de développer une nouvelle vision de la ville, parce que la ville est parfaitement cartographiée et en surface avec son cadastre. Mais lorsqu'on passe en dessous, c'est-à-dire exactement sous nos pieds, il n'y a rien. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de cadastre, on ne sait pas ce qui s'y passe, on ne sait pas ce qui fonctionne. Mais c'est un monde qu'il faut reconnaître. Donc là, justement, l'intelligence artificielle serait très intéressante, parce que l'intelligence artificielle, c'est de la data, une data extrêmement puissante. Et il nous faut une data extrêmement puissante pour mettre en réseau, si je puis dire, l'ensemble des informations qui se trouvent sous nos pieds pour qu'elles fassent germer un nouveau système racinaire pour la ville. Et ce système racinaire, il a aussi évidemment des conséquences politiques et sociales, car il oblige à une forme de solidarité. C'est-à-dire qu'il faut casser quelques murs. Par exemple, prenons l'exemple de l'Arc de Triomphe. Pour accéder à l'Arc de Triomphe, vous avez un horrible boyau, etc. Bon, ça peut s'aménager, disons. Mais cet horrible boyau, évidemment, il passe sous la chaussée, il va jusqu'au pied de l'Arc de Triomphe. Et puis, d'un côté, en fait, on pourrait percer ce mur. Et ce mur, si on le perçait, on ouvre sur tout le réseau de transport qui est là, qui est vraiment à 50 cm. Donc, c'est ce que je cherche à dire. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, un déjà-là, qui n'est pas audible, qui n'est pas visible, qui est même un peu un monde du déni, parce qu'on a peur lorsqu'on va dans le sous-sol, on a peur d'être enterré, c'est humide,
oui,
c'est sombre, etc.
Oui, il y a un imaginaire assez noir.
Et donc, c'est pas faux, mais ce n'est pas forcément uniquement l'enfer de Dante. Voilà. Donc, dans le dessous, il y a effectivement cette capacité à se connecter, à créer un réseau du dessous qui, finalement, nourrirait nos bâtiments du dessus. Donc cette relation dessus-dessous, en particulier, on la met en architecture avec la gare de Villejuif, puisque nous réalisons le pendant de la gare de Pleyel au nord. Il y aura la gare de Villejuif, Gustave Roussy, donc au pied du Grand Hôpital, qui va ouvrir à la fin de l'année, qui est aussi une gare emblématique, une intersection de plusieurs lignes de métro, la 14 et la 15. Et cette gare est une gare à 50 mètres de profondeur, avec la lumière naturelle, donc moi je l'appelle une gare de plein air à 50 mètres de profondeur, sans aucune ventilation mécanique, et donc il n'y a pas de couloir, il n'y a pas de galerie, il n'y a pas de tunnel, on descend à la lumière naturelle,
oui,
on sort de son métro, on lève les yeux, on voit le ciel. Donc en fait, cette gare, ou tout au moins les façades de cette gare, prolongent la rue et prolongent l'architecture du quartier. Donc en fait, apparaissent petit à petit des projets qui introduisent de la lumière et de l'espace, du vide finalement dans le dessous, pour faire vivre ce dessous à partir de ce qu'il est. Donc il y a une vraie dimension de résilience. Évidemment, ça accompagne des choses peut-être plus angoissantes et anxiogènes. C'est la question des épidémies, des guerres, des désastres divers et variés. Et le dessous est une vraie résilience. On le voit, on peut l'utiliser pour attaquer, mais aussi pour se défendre. On peut l'utiliser pour résister, etc. Donc le dessous n'est pas un lieu de déni. Ce n'est pas une poubelle. C'est un lieu qu'il faut considérer et justement qu'il faut agencer.
Alors, en vous écoutant, on comprend évidemment toutes ces potentialités. Est-ce qu'il y a beaucoup d'architectes aujourd'hui qui s'en emparent ? Vous, c'est une notion qui vous est chère ? C'est vous qui l'avez...
Oui, c'est né avec la bibliothèque, puisque la bibliothèque est en fait un projet très actuel, puisque c'est un projet qui crée un îlot de fraîcheur, un lieu de biodiversité avec son morceau de forêt. C'est un bâtiment où la place est piétonne et entièrement en bois. Il y a beaucoup de bois dans la bibliothèque, il n'y a que des matériaux qui ne sont pas transformés, qui sont totalement naturels. Donc c'est finalement un bâtiment qui a toujours 36 ans, l'âge de l'architecte. Voilà. Donc c'est pour dire que en fait, c'est l'attitude qui est importante. Et donc, la résilience, elle s'opère au travers de l'attitude. Si je reviens sur le village olympique, l'orientation de toutes les rues, de tout le faisceau des allées, des rues, des places, etc., du quartier olympique, s'oriente vers l'ouest. Ça veut dire que le vent dominant va passer au-dessus de la Seine, deux fois, puisqu'il y a une île, donc va se rafraîchir et va suivre, naturellement, la pente de la colline sur laquelle est construit le village olympique. Donc, l'attitude, finalement, on revient à un certain nombre de principes de nos aïeuls qui disposaient leur bâtiment d'une certaine façon par rapport à la géographie et par rapport à leur environnement. Et ça, ce sont des éléments qui sont passifs, qui sont résilients, qui sont gratuits et qu'il faut penser avant même de mettre en place des systèmes plus complexes, nécessaires, de gestion de l'énergie, de gestion plus mécanique, quelque part, de la résilience. Donc, il y a une résilience vraiment culturelle, d'une certaine façon, et même culturelle tout court, car c'est une vision d'un monde, d'une société, d'une nature qui n'est plus la nature, mais qui est notre nature.
Et qu'il faut mieux exploiter. Depuis vos débuts, vos projets accompagnent ce développement du Grand Paris. On sent que c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. C'est une réflexion qui vous anime beaucoup. Pourquoi le Grand Paris spécifiquement ?
C'est un grand projet, le Grand Paris Express. C'est un projet peu connu, car c'est un projet qui se développe sous nos pieds. On ne le voit pas. On est embêté par ce projet parce qu'il y a des travaux un petit peu partout, mais on ne sait pas vraiment à quoi correspondent ces travaux, alors qu'en fait, c'est un projet très, très important. C'est une nouvelle boucle, c'est un nouveau loop, si on peut dire, qui va circuler autour de Paris. Donc, ça veut dire, en clair, pour ceux qui habitent sur ce territoire du Grand Paris, ils n'auront plus besoin de passer par Paris pour faire une correspondance, pour aller du nord vers l'est, de l'est vers le sud, etc. Donc, c'est une nouvelle géographie, c'est une nouvelle carte qui se met en place. C'est un projet d'infrastructure unique, certainement un des plus importants actuellement sur la planète. C'est un projet qui coûte environ 36 milliards aujourd'hui, qui certainement finira à une cinquantaine de milliards lorsque l'ensemble des gares, 70 gares vont être réalisées, et la gare Pleyel est la gare emblématique de lancement, si je puis dire, de ce nouveau réseau. Donc c'est un réseau, je dirais, démocratique, parce que le transport public est certainement l'outil le plus démocratique qui puisse exister. Il intéresse tout le monde, qui que ce soit et où que ce soit. Et donc, il y a là une dimension qui est méconnue, Parce que, évidemment, c'est un énorme travail d'ingénierie, mais c'est aussi un travail d'architecture, puisque 70 gares vont être dessinées chacune par un architecte, et également 70 artistes vont faire tandem avec l'architecte pour installer dans la gare des œuvres d'art monumentales. Donc Pleyel est la partie visible de l'iceberg et symbolique. Donc, c'est formidable que Pleyel ouvre pour les Jeux Olympiques. C'est vraiment un signe très fort. Et ensuite, petit à petit, ce réseau va se développer. Et je cite encore, parce qu'il faut le savoir, que dans la dizaine d'années dans laquelle nous sommes, 160 gares vont ouvrir. Donc, il y a bien sûr les gares de métro du Grand Paris Express, mais il y a de l'extension de Météor, il y a des extensions de RER, il y a des nouvelles gares de bus, il y a des gares de vélo. Ça veut dire que petit à petit, le maillage du Grand Paris va devenir aussi tenu ou aussi dense que le maillage des stations de métro à Paris.
Alors parmi vos dernières actualités, Dominique Perrault, je le disais en vous présentant tout à l'heure, vous êtes occupé de la toiture du cours Suzanne Lenglen à Roland-Garros et vous avez puisé votre inspiration dans le vestiaire de Suzanne Lenglen. Plus précisément dans sa jupe. Comment vous vous êtes inspiré? Alors, bon,
d'abord, le cours s'appelle Suzanne Lenglen. Mm-hmm. Donc, Suzanne Lenglen n'est pas une innocente, si je puis dire, par rapport à Roland-Garros, puisqu'elle avait des liens avec Roland-Garros, qui était cet aviateur, qui est mort très jeune d'ailleurs. Donc, en fait, le fait qu'il y ait Roland-Garros et Suzanne Lenglen, c'est vraiment la racine historique de ce lieu et de toute l'histoire, d'une certaine façon, du tennis français. Donc, la façon, si je puis dire, dont Suzanne Lenglen menait sa garde-robe, si je puis le dire ainsi, était quelque chose de très particulier. On l'appelait la divine. Et elle avait effectivement cette robe qu'on voit sur les photos et qui bouge avec une robe avec un grand plissé.
Dessinée par Jean Patou.
Voilà, dessinée par Jean Patou et qui bouge d'une certaine façon. Assez lente, c'est pas un petit plissé soleil, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ample dans le mouvement. Et je trouvais que c'était un merveilleux hommage, puisque la membrane qui se plie et se déplie pour couvrir et découvrir le cours Suzanne Lenglen est une membrane blanche aussi. Donc je trouvais qu'il y avait là une jolie analogie dans le mouvement, dans la matière, dans l'esprit, et qu'il fallait s'en emparer. Aujourd'hui, on peut dire que le cours Suzanne Lenglen est paré de tous les atouts de la dame.
Voilà. Et sera moins dépendante de cette météo.
Et moins dépendante de cette météo un peu aujourd'hui.
Aléatoire.
Lumineuse.
Quels sont les projets en cours qui vous occupent après ce village, ce cours Suzanne Lenglen? Est-ce que vous vous êtes octroyé quelques vacances ou non, les projets continuent? J'ai cru comprendre qu'à Séoul, vous aviez quelques actualités aussi.
Oui, on a une activité internationale qui est assez forte, ce qui est bien parce que effectivement, en France, c'est plus calme, disons. On travaille beaucoup à Séoul. On a plusieurs projets à Séoul qui sont des projets assez différents les uns des autres, dont un qui est quand même dans le prolongement de ces grands projets d'infrastructures de transport, puisque on a en chantier actuellement un projet public qui sera une grande gare. Pour donner une dimension, c'est à peu près la moitié des Champs-Élysées en termes de dimension, de largeur, de longueur, 50 mètres de profondeur, avec trois gares de train, deux gares de métro, des bus, etc. Donc c'est vraiment un objet très particulier, 600 000 personnes par jour qui vont circuler dans cet ensemble. Il y a trois objets dans le monde de cette nature. Un à San Francisco, à la sortie du pont qui permet de faire une espèce de hub entre les différentes mobilités. Un autre à Shenzhen, donc en Chine, et bientôt, donc dans 4-5 ans, à Séoul.
Et on regardera avec attention ces futures réalisations. Merci beaucoup, Dominique Perrault, pour cette visite guidée du nouveau village olympique, paralympique, qui deviendra donc un écoquartier, qu'on peut aussi aller visiter sur place si vous êtes du côté de Paris. Et je signale aussi donc la parution du livre dont vous avez parlé au cours de l'interview, un livre sur le village des athlètes, un village et son double, manuel d'urbanisme pour les Jeux olympiques et paralympiques. C'est à retrouver aux éditions Actar.
Merci.
Canal Académie.